Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
La vieille Europe et le dilemme du gangréné. Paul Goldschmidt, ex-directeur de la Commission européenne, rappelait avec malice dans un de ses papiers récents, à propos de la crise financière, la parabole des gangrénés, qui est la suivante. Trois personnes se faisaient soigner pour une gangrène à une jambe. La première, sur les conseils de son médecin, opta pour une solution radicale avec l'amputation immédiate de la jambe. Après une convalescence pénible et une réforme de son mode de vie, il retrouva une existence épanouie. La seconde fut priée de s'armer de patience car une conférence sur sa pathologie devait se dérouler l'année suivante dans le cadre des organisations internationales et l'OMS. Il prit des antidouleurs pour passer le cap, mais souffrit d'insomnie et son angoisse paralysa toute velléité d'activité et le rendit agressif et intolérant avec son entourage. 2 ans plus tard, on lui amputa les 2 jambes. Le 3e fut reçu à la hâte et s'entendit dire de ne pas se faire de soucis et de continuer comme avant. L'année suivante, ses amis le portèrent en terre. Décider à froid d'une amputation nécessite, on le voit, du courage. Mais c'est le plus souvent la seule solution de la survie. Ce dilemme du gangréné constitue à bien des égards le véritable défi de la vieille Europe, rongée par des pathologies dont l'issue est certaine, au premier rang desquelles se place la dette des États et les dépenses publiques. En fait, les 2 jambes sont déjà atteintes. En effet, l'inquiétude grandit pour la dette européenne tandis que les écarts se creusent entre les pays de la zone euro sur le prix à payer aux marchés financiers pour renouveler leur endettement lorsqu'ils arrivent à maturité environ tous les 7 ans. Tandis que l'Allemagne et la France n'ont jamais emprunté à des taux aussi bas, respectivement 2,36 et 2,60 pour les obligations à 10 ans, l'Irlande, de son côté, s'acquitte de ses intérêts à des niveaux 2 fois plus élevés pour un refinancement qui toutefois se réalise légèrement plus bas que lors de la précédente opération. Ce signe de relative détente ne saurait faire oublier que les instruments de couverture des risques, les fameux CDS, évoluent toujours à un niveau record entre ceux de la Grèce et du Portugal, attestant en cela de la grande défiance et de l'aversion au risque des marchés. Peu à peu émerge une Europe à 2 vitesses. Ce qui, rapproché d'une monnaie qui reste unique dans les 2 sens du mot, invite à ne pas sous-estimer la gravité de la situation. Globalement, les marchés financiers doutent de la capacité de certains États à honorer leur engagement, ce qui révolutionne le concept solidement ancré dans la culture bancaire qui campait sur la certitude d'un risque souverain nul. Aussi, faut-il bien admettre que le niveau d'endettement de la zone euro qui atteint près de 80% du PIB, 78,7, est alarmant. Non seulement pour son niveau en valeur absolue, mais pour sa nature et son évolution. La dette des États européens résulte en effet pour une large part, 55%, des dépenses de fonctionnement et non d'investissement. Et ce sont les dépenses d'investissement qui seules permettent d'espérer un retour bénéfique pour la croissance future. De même, en tendance, les prévisions sont gravissimes et le FMI tire la sonnette d'alarme. 110% du PIB pour la France en 2015, 115% pour les pays du G20. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, chaque nouveau-né doit déjà 22 000 euros avant même d'avoir respiré sa première bouffée d'oxygène ou de CO2. C'est donc bien cette addiction à la dépense publique de la société européenne, 55% du PIB contre 45% aux États-Unis, qui constitue la cause première de notre endettement. Quand bien même la crise financière a pu justifier des mesures conjoncturelles importantes et qui pèsent partiellement sur le niveau actuel, au total, l'excès des dépenses publiques affaiblit l'économie, incline à l'hédonisme et crée, comme chez les toxicomanes, une forme de dépendance psychologique avec l'illusion que le monde paradisiaque du sans-effort est à portée de main. Le diagnostic est donc sans appel. La part de la mauvaise dette est structurellement trop élevée en Europe et le niveau atteint et programmé pour l'avenir annonce l'accélération d'une spirale négative qui, au-delà d'un niveau supérieur à 80-90% du PIB, les économistes sont d'ailleurs globalement d'accord sur ce point, engendre un rapport coût-bénéfice pour la croissance négatif. On a découvert d'ailleurs, ce qui était largement prévisible, que les relances de 2008-2009, destinées à faciliter la sortie de crise, avaient créé plus de dettes que d'emplois. Aussi en Europe, qui doit faire face comme aux États-Unis au même défi de relance de la croissance pour l'emploi, La priorité absolue reste la restauration de la discipline budgétaire telle que définie par le pacte de stabilité et de croissance. C'est le préalable incontournable du rétablissement de la confiance des marchés. Et comme l'indiquait Paul Goldschmidt, le fait que la monnaie unique prive les autorités de l'option de la dévaluation accroît d'autant la pression sur les instruments fiscaux et budgétaires et les mesures d'austérité annoncées ou envisagées par l'ensemble des gouvernements de l'UE. Ces mesures ne manqueront pas de ralentir, sinon de casser une reprise déjà lente et endémique. Et sans doute une surévaluation de l'euro qui ne manquera pas de poser d'autres problèmes. Il semble donc que la seule thérapie envisageable est celle d'un appel à la responsabilité de tous les acteurs économiques et sociaux pour établir des budgets nationaux plus économes. Le budget de 2011 de la France sera déjà une des premières illustrations. Des systèmes et des modèles sociaux moins coûteux et des systèmes de retraite supportables par les contribuables. Pour ce faire, il faut renouveler le courage et la détermination politique. Or, dans ce domaine, l'absence d'un chef d'orchestre européen susceptible de faire émerger un consensus sur quelques grands objectifs communs se fait cruellement sentir. La perte de légitimité des dirigeants du vieux continent obère leur capacité à élaborer et à faire suivre des règles du jeu claires, justes et loyales. Pour survivre dans la compétition multipolaire, pour éviter l'appauvrissement général et vaincre le terrible fléau du chômage, et en particulier de sa jeunesse, la vieille Europe devra surmonter la panne de son modèle social, en particulier de l'État-providence, selon lequel l'essayiste Guy Sorman considérait que la crise n'a pas créé mais révélé. Les dirigeants européens manquent de vision, ou pour le moins ne savent plus la communiquer, ne serait-ce que pour espérer pouvoir conserver le meilleur de leur modèle. Le temps des amputations chirurgicales et salvatrices est venu pour nous préserver de la gangrène et sans doute renaître. La renaissance ou la décadence, tel est le dilemme. La renaissance nécessite une très forte détermination et sans doute faut-il aller plus loin que le simple rabotage des niches fiscales. C'est de l'élagage dont il est question. Il faut aussi beaucoup de courage, ce qui n'est pas le plus facile, mais rappelons-nous que le courage fait mal une fois, tandis que la faiblesse et les atermoiements font mal longtemps, très longtemps. Alors, courage !